franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre, bonjour. Et bonjour à tous. Il s'appelle Daniel Cordier. Il est né en 1920, il a donc 96 ans et pendant plusieurs décennies, il a travaillé dans les arts, critique, collectionneur, galeriste et marchand. Il a découvert des artistes et organisé par ailleurs de grandes expositions, mais à dire vrai, ce ne sont pas ses activités qui l'ont rendu célèbre. Non, si Daniel Cordier est entré dans l'histoire, l'histoire avec un grand H, c'est parce qu'il fut le secrétaire de Jean Moulin pendant la Seconde Guerre mondiale et parce qu'il fut l'un des tout premiers à rejoindre De Gaulle, l'un des tout premiers compagnons de la libération, l'ordre créé par le général le 16 novembre 1940 en tant que chef des Français libres. Ils étaient 1038. 1038 compagnons de la libération. Désormais, les années passant, ils ne sont plus que 11. Et jamais jusque-là, Daniel Cordier ne s'était engagé dans le débat public. Jamais il n'était intervenu pour faire part de la moindre idée politique. Mais à 8 jours du second tour de l'élection présidentielle, il sort aujourd'hui de son silence parce qu'il ne supporte pas l'idée que la fille de Jean-Marie Le Pen puisse un jour diriger le pays, ni que certains de ses amis, de ses nouveaux amis, puissent se dire les héritiers de De Gaulle. « Je suis parti à Londres en 1940. Je n'avais pas 20 ans », explique-t-il dans les pages du journal du dimanche. « Quand j'imagine Marine Le Pen représenter la France, quand je réalise le risque qu'elle soit élue, je trouve cela monstrueux. » Le Pen, dans la vie politique française, représente la négation de tout ce pourquoi nous nous sommes battus. Le Pen, c'est la France de la réaction, c'est la France de Maurras qui continue. Ce retour est effrayant, dit-il. Puis donc, questionné sur les nombreuses références au gaullisme, entendues à la fois chez Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, le grand officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, rétorque « Quand je les entends revendiquer cet héritage, je le ressens comme une imposture. » À ses yeux, la candidate du Front National et celui qu'elle a présenté hier comme son prochain Premier ministre seraient ainsi des imposteurs. « Vous appelez à voter Macron ?» l'interroge alors le journal. Sans hésitation et sans aucune réserve, répond Daniel Cordier avant de préciser qu'il a toujours voté à gauche et même communiste. Mais une seule fois, précise-t-il.
Dans l'hebdomadaire, d'ailleurs, on découvre d'autres soutiens aux candidats d'En Marche.
Le soutien notamment de Robert Badinter, ancien ministre de la Justice, figure morale de la gauche. À ses yeux, le Front National n'a pas changé de nature en changeant de génération. Il a simplement changé de look et non, assure-t-il, l'élection présidentielle n'est pas pliée et la défaite de Madame Le Pen n'est pas acquise. Raison pour laquelle il estime que s'abstenir, c'est d'une certaine manière favoriser son élection. Un appel également à voter Emmanuel Macron dans la voix de Jean-Louis Borloo, toujours dans le journal du dimanche. Depuis plus de 3 ans, l'ex-ministre centriste avait pourtant choisi de se mettre en retrait de la vie politique. Mais d'après lui, la situation est aujourd'hui beaucoup trop grave pour qu'il continue à se taire. Non au FN, c'est son credo. Et il fait donc, dit-il, le pari d'Emmanuel Macron, le pari de l'audace, de la modernité, de l'action positive. Il prône la formation de ce qu'il appelle une coalition des progressistes, se disant prêt à se retrousser les manches 2 ou 3 ans, une offre de service en somme. Soutien de Nicolas Hulot, également dans les pages du Monde, un vote de raison, mais pas d'adhésion, précise-t-il, et soutien en creux de Philippe Martinez dans le Parisien. Le nini n'est pas la position de la CGT, dit-il, invitant donc à faire barrage à Marine Le Pen. Laquelle donne d'ailleurs une interview au journal. Oui, assure-t-elle, je peux battre Emmanuel Macron.
Et elle revient également sur l'accord annoncé hier.
Ses fiançailles avec l'ancien candidat de Debout la République, Nicolas Dupont-Aignan, ne se rallie pas. Il s'allie, explique-t-elle, précisant qu'elle partage avec lui la même vision de l'indépendance de la France et de la défense du peuple français. Raison pour laquelle elle lui a donc promis de devenir son premier ministre en cas d'élection. Cela dit, du côté du programme, son projet d'une sortie de l'euro semble de plus en plus confus. C'était pourtant jusqu'alors un point crucial et même la donnée sur laquelle reposent toutes ses idées en matière d'économie. Et pourtant, désormais, il apparaît que cette sortie ne soit plus du tout essentielle. Commentaire de Frédéric Vizard dans son édito. La matrone du populisme est assurément un redoutable animal politique. Mais cela ne suffit pas toujours à masquer les incohérences de son projet. Des incohérences sur lesquelles devrait insister son adversaire lors du débat qui se déroulera mercredi.
Oui, le fameux débat de l'entre-deux-tours.
Ce sera à 21h sur France 2 et TF1. Une soirée animée par les chefs des services politiques des deux chaînes. Décision prise mardi dernier lors d'une réunion à laquelle participaient les représentants des deux candidats. C'est à cette occasion qu'ainsi était validé le choix du réalisateur, en l'occurrence Tristan Carnet, lequel avait déjà mis en image le grand débat du 20 mars et qu'on connaît aussi pour être celui qui réalise l'émission The Voice. Un télécrochet où des chanteurs s'affrontent à travers des battles, c'est à qui aura la voix la plus puissante ou la plus singulière, la plus belle signature vocale selon l'expression consacrée. Désormais, l'importance n'est pas de chanter bien, mais c'est donc d'avoir une signature vocale. Les participants de la réunion de cette semaine ont aussi validé la place des candidats. Ça s'est fait par tirage au sort. De même que pour l'ordre de prise de parole, c'est Marine Le Pen qui commencera le débat. Elle sera à gauche de l'écran, tandis qu'Emmanuel Macron sera placé à droite et aura le privilège d'avoir le dernier mot. Reste encore à entériner la qualité des sièges, le décor gris bleuté, la taille de la table blanche à laquelle ils seront assis, sans oublier bien sûr la température du studio, important la température, surtout quand on prévoit des échanges plutôt chauds. Reste aussi à s'entendre sur les conditions de la réalisation. Y aura-t-il des plans de coupe au cours de la battle? Des plans sur l'opposant pendant que l'autre parle? Tout cela sera décidé mardi prochain lors d'une ultime réunion. Cela dit, ce rendez-vous qu'on présente comme le rendez-vous, the rendez-vous de l'entre-deux-tours, a-t-il vraiment une influence sur le résultat final? Mis à part si l'un des candidats vient à s'effondrer, un tel débat ne fait que renforcer les tendances. Répond Serge Moati dans les colonnes de Society. Moati, qui a conseillé Mitterrand en 81 comme en 88, puis Jospin en 95 et Hollande il y a 5 ans. Pour lui, ce débat n'a donc rien de décisif. Ce n'est pas là que se joue l'élection, mais tout de même, il vaut mieux le gagner. D'autant que les téléspectateurs se comptent par millions. Ces dernières décennies, ils étaient entre 17 et 30 millions ce soir-là devant leur écran. De gros succès d'audience et de vrais moments de télé. Le fameux monopole du cœur de Giscard face à Mitterrand. Le fameux l'homme du passif de Mitterrand face à Giscard. Et plus récemment, l'anaphore de Hollande face à Sarkozy. Moi, président, moi, président. Si l'on en croit Moati. Il était d'ailleurs déjà président quand il est entré dans le studio ce jour-là. En somme, il habitait le costume, ce que son adversaire avait sous-estimé. Et d'ailleurs, Emmanuel Mignon, qui à l'époque conseillait Nicolas Sarkozy, n'a toujours pas compris comment son champion avait pu se laisser alors cornériser sur à peu près tous les sujets. L'après-midi, se souvient-elle, en réunion, il avait fait un véritable one-man show, disant exactement ce qu'il aurait dû dire le soir. Et puis, sur le plateau, il en a été incapable.
Quoi d'autre à retenir dans la presse, Frédéric ?
Jackpot à la Fnac, c'est le salaire qui fait rêver. Près de 14 millions d'euros l'an dernier pour son PDG Alexandre Bompard. En 2015, c'était déjà 11 500 000 euros et la somme à l'époque avait fait polémique, c'est à lire dans Libération ce week-end, qui estime qu'à ce niveau-là, cela relève moins du salaire d'un manager que d'un gain à l'euro million. Un anniversaire, demain, l'actrice Danielle Darrieux va fêter ses 100 ans. Son secret de longévité, un verre de whisky tous les soirs. Dans le JDD, petite phrase de Catherine Deneuve, c'est la seule femme qui m'empêche d'avoir peur de vieillir. Enfin, dans le Parisien, retour sur la soirée d'hier sur TF1, c'était l'émission The Voice. Pas de performance mémorable dans ces dernières battles, nous dit-on, mais pendant les répétitions, Natalia a fait preuve de propos étonnants à l'écoute de Valentin, de sa voix grave. « Tu sens le sexe quand tu chantes, c'est dingue », lui a-t-elle dit. Il est peu probable qu'on entende ce genre de propos lors de la battle de mercredi prochain.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.